Welcome.
It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Jigida, kani jigi mi senya, omanyi kobena.
It's okay. You know, it's okay.
Seems to be ready. Are you ready?
For the next band.
We're sorry for the delay. Is everybody ready?
Well, I've done the biggest coverage of all sorts of other places in America.
The biggest gallery
in New York. The first one for you. The Rolling Stones. The Rolling Stones.
The greatest rock and roll band in the world. The Rolling Stones.
Doutons pas une seconde que vous ayez reconnu le plus grand groupe de rock'n'roll du monde, les Rolling Stones, enregistrés au Madison Square Garden de New York en 1969, il y a donc 50 ans, avec en première partie B.B. King et Ike and Tina Turner, ce qui a soulevé une interrogation de notre part. Mick Jagger et ses comparses entrent-ils dans l'épopée des musiques noires? Nous allons poser cette question à Bruno Jufin, auteur d'un ouvrage imposant, The Rolling Stones on Stage, paru chez GM Éditions. Soyez le bienvenu.
Bonjour Joe, c'est un plaisir.
Vous êtes donc l'heureux narrateur d'une aventure musicale qui se déroule principalement sur scène, puisque vous avez sélectionné 50 concerts entre 1962 et 2018, du Marquis Club de Londres au Stade Vélodrome de Marseille, en passant par l'Olympia à Paris, la Havane à Cuba. Nous avons tous un souvenir, une image, un riff de guitare à l'esprit lorsque nous découvrons votre récit. Comment avez-vous procédé pour sélectionner les 50 prestations qui rythment les 192 pages de votre livre ?
C'était relativement simple, finalement. Tout le monde a ses Rolling Stones à soi. J'ai atteint à l'âge où tous les Rolling Stones sont les miens. Je connais à peu près toutes les périodes. Et il fallait rendre compte de cette histoire. On appellera ça une histoire, une légende, un mythe, une épopée, qui court finalement sur plus de 50 ans, plus d'un demi-siècle. Il fallait évidemment montrer la naissance du groupe, donc au Marquis Club en juillet 1962, rendre compte de ce qu'a été son évolution au début, quand c'est un groupe qui fan de musique noire qui font uniquement des reprises de Bo Diddley, de Chuck Berry, de Jimmy Reed, de Rufus Thomas, de Slim Harpo, de tous ces gens-là. Ensuite, rendre compte de leur virage plus pop quand ils abordent, à partir de Satisfaction finalement, qui est le cataclysme musical des années 60.
1965.
Août 1965, numéro 1 à peu près partout dans le monde. Et puis ensuite montrer quand ils deviennent plus pop avec Ruby Tuesday, Painted Black, etc. Montrer ensuite comment ce groupe, qui était à l'époque le groupe de Brian Jones, du guitariste blond, premier en quelque sorte patron du groupe, quelqu'un qui avait trouvé le nom du groupe, qui négociait les contrats, qui était un petit peu la tête pensante et le plus ambitieux peut-être, comment ce garçon s'est trouvé relégué au second plan quand deux autres membres du groupe, l'autre guitariste, Keith Richards, et puis le chanteur, harmoniciste, danseur, et on pourra ajouter tellement le personnage est multiple, Mick Jagger, Michael Phillip, sont devenus les deux patrons du groupe à leur tour et l'ont évincé parce que eux savaient composer. Et donc, ça a donné, dans un premier temps, cette période magique 68-72, qui va de Beggar's Banquet à Exile on Main Street, où vraiment les Stones sont littéralement le plus grand groupe de rock'n'roll du monde. Et je crois qu'il n'y a rien eu de comparable depuis. Et puis ensuite, montrer comment, avec l'arrivée de Ron Wood, ça devient autre chose. Et puis comment, à partir de 1982, quand le groupe n'est plus guère créatif musicalement, il reste capable de transporter une foule partout dans le monde. C'est ce qui est quand même très spectaculaire. Dans des pays où on n'a jamais entendu leurs disques quasiment, ils ont dû vendre 3 disques en tout et pour tout, eh bien, ils arrivent sur scène et d'un seul coup, c'est le déclic est là. À la Havane, où je pense qu'il y avait peu de magasins de disques à l'époque du castrisme, instantanément, tout le monde rentre dans cette frénésie. Il y a une magie chez les Stones.
Nous avons débuté cette émission en nous posant la question qui légitime votre présence à nos côtés aujourd'hui. Les Rolling Stones font-ils partie de l'épopée des musiques noires ? Est-ce qu'on peut dire que sans les Rolling Stones, les bluesmen noirs américains n'auraient pas connu un tel succès en Europe ? Ont-ils réhabilité la culture afro-américaine en Europe et par ricochet dans le monde ?
Oui, ça me paraît assez évident à prendre un exemple. Prenons l'exemple de Chuck Berry, qui a la réputation d'être quelqu'un de dur en affaires, de pas très commode, de pouvoir être cassant ou blessant à l'occasion. En 1964, durant une tournée américaine, les Rolling Stones vont jouer au Texas, ça se passe pas très très bien. En première partie, ils ont, selon les témoignages, des singes savants ou des otaries apprivoisés. Bon, c'est pas top rock'n'roll. Et leur manager, Andrew Lou Oldham, pour leur requinquer le moral, j'imagine, leur dit, les gars, je vais vous emmener à Chicago, chez Chess Records. Chess Records, pour eux, c'est la Mecque, le Saint des Saints, parce que la légende, peut-être en partie vraie, veut que Mick Jagger, quand il était adolescent et qu'il habitait à Dartford, à Londres, ait envoyé ses lettres et ses chèques à l'adresse de Chess Records, 2120 South Michigan Avenue, pour commander ses disques qu'il faisait rêver. Et donc, ils arrivent là-bas. Alors, selon les versions, Muddy Waters, avec sa petite moustache, se contente de les aider à porter leurs valises. Ou quand Keith Richards est en pleine forme, il dit « Ouais, Muddy Waters, on l'a rencontré, il portait une salopette, il repeignait le plafond de Chess Records. » Toujours est-il qu'ils enregistrent à Chess Records et que Chuck Berry leur rend visite. Et Chuck Berry leur dit « Dites donc, les gars, vous swinguez drôlement, ils appellent gentlemen, you have a mighty good sound. Et je vous en prie, continuez comme ça. » Évidemment, pour Chuck Berry, c'est une source de royalties absolument phénoménale. Parce qu'à l'époque, il n'y a pas de disque des Stones sans une ou deux chansons de Chuck Berry et des chansons alors jouées par peut-être les seuls musiciens qui aient, je ne vais pas dire amélioré, mais qui n'aient absolument pas à rougir de jouer du Chuck Berry parce qu'ils en donnent leur propre interprétation. Mais elle est d'une fidélité hyper réaliste. C'est au-delà de la fidélité. Il pénètre l'âme de la musique de Chuck Berry. Keith Richards, Chuck Berry, c'est son idole. Il sait faire ça la nuit, en dormant. Et il a fait ça des heures et des heures quand il squattait dans un gourbi à Londres sur Ibis Grove pendant les hivers 63, je crois, 62-63. Et Mick Jagger, qui est capable de chanter à peu près n'importe quoi, il trouve dans les paroles de Chuck Berry, dans la phrasée de Chuck Berry, cette espèce de canaillerie et de tonalité aigriarde sans laquelle il n'y a pas les Rolling Stones. Donc évidemment, les Stones ont existé grâce à Chuck Berry et des tas de gens. Donc, pour revenir à votre question de façon un peu tardive, j'en demande excuse, Chuck Berry, Muddy Waters, Jimmy Reed, Howlin' Wolf. Il y a cette célèbre séquence télévisuelle où, lors d'un show américain, peut-être bien Shindig, les Stones invitent Howlin' Wolf à chanter et ils sont à côté de lui. Et il y a Brian Jones qui est assis avec l'air totalement respectueux. Ils tapent du pied ou dans leurs mains. Évidemment, c'était un formidable tremplin pour ces musiques-là. Donc oui, je pense qu'ils ont beaucoup fait pour que les musiques noires dépassent le public étroit qui était le leur au début, puisqu'il y avait les West Stations, les stations de radio qui passaient des musiques noires dans les quartiers noirs. Et aux États-Unis, il y avait peu de blancs qui écoutent ça. Et c'est à travers les Rolling Stones, donc leurs premiers albums de 63, 63-64 qu'une génération d'artistes blancs, qui eux-mêmes sont devenus des joueurs, des rockers et des bluesmen, se sont dit « Tiens, cette musique, elle vient de notre pays, mais jusqu'à présent, on ne la connaissait pas. » Et ça a donné ensuite donc des gens qui vont des groupes de garage rock, les Standells, les Chocolate Watch Band d'un côté, les Stooges à Détroit, à Ann Arbor, et bien d'autres, les New York Dolls ensuite à New York. Je crois que les Stones n'ont pas évidemment créé la musique noire, mais ils ont été un formidable accélérateur pour la propagation de cette musique et son authenticité.
Prenons l'album Love You Live, 1977. Oui. Il occupe 3 doubles pages dans votre livre. Mmh. Pourquoi ?
C'est un album qui est hétérogène, on va dire, parce qu'il y a une partie enregistrée aux abattoirs de Paris, où j'étais à l'époque, alors là, j'étais 4 jours de suite, il fallait que je voie tous les concerts, 4 jours aux abattoirs, les voir ensuite là, 2 jours après à Lyon, et puis les suivre à Nice, et les voir à Nebworth ensuite en Angleterre, donc à l'époque, voilà, c'était du sérieux. Et les abattoirs, ça m'a toujours un peu laissé sur ma faim, musicalement. C'était une période un peu dure pour eux, qui savaient beaucoup consommer de substances. Juste avant l'un des concerts, il apprend le décès de l'un de ses fils, Tara, qu'il avait laissé en Suisse aux bons soins de sa mère, Anita Pallenberg. On comprend qu'il ne soit pas forcément complètement en forme ensuite. Et il joue très vite, très fort, avec Ron Wood qui remplace Mick Taylor, c'est difficile à faire. Et puis, sur cette tournée-là, ils redeviennent excellents. Un mois plus tard, lors d'un concert à Nebworth, qui est donc en Angleterre, où là, d'un seul coup, ils font du blues. Là, ils font une version de Little Red Rooster absolument à tomber par terre. Et puis, il y a du blues dans, évidemment, Midnight Rambler, dans leur propre composition. C'est à peu près omniprésent. Mais le son n'est pas très bon. Ça crache dans la sono. Donc, pour vendre ce double album, Love You Live, ils ont besoin d'un petit truc en plus. Et ce truc en plus, ils vont le trouver au Canada, à El Mocambo, qui est une salle de Toronto, où ils vont jouer 2 jours de suite, et l'une de ces soirées va être enregistrée. Et ce qu'ils vont garder de l'enregistrement, ils font des vrais concerts avec 15 ou 20 titres, je ne sais plus exactement, la version pirate entière n'existe malheureusement pas, n'est pas dans le commerce. Ils vont en extraire 4 titres, qui sont alors de tête Manish Boy, donc chanson de Willie Dixon, Muddy Waters, Around and Around, le classique de Chuck Berry qu'ils jouent, eux, depuis alors 63-64, ils l'ont joué des tas de fois. Little Red Rooster, le grand moment de Brian Jones en 64, qui là devient un grand moment de Ron Wood et Keith Richards dans la version El Mocambo. Ils font Cracking Up de Bo Diddley, une autre de leurs grandes idoles. Alors que les 4 faces parisiennes sont inégales, à mon avis, la face El Mocambo, elle est magique.
Little Red Rooster de Willie Dixon, immortalisé par Howlin' Wolf et revitalisé en 1977 par les Rolling Stones. Je tiens d'ailleurs à préciser que la version originale par Howlin' Wolf est disponible dans une compilation qui accompagne votre livre, Bruno Jufin, et qui regroupe tous les artistes afro-américains qui ont inspiré les Stones, Jimmy Reed, Chuck Berry, Little Walter, Memphis Slim, Muddy Waters, entre autres. Et d'ailleurs, nous allons parler d'un autre concert qui légitime les Rolling Stones dans l'épopée des musiques noires. C'est le Checkerboard Lounge de Chicago, le 22 novembre 1981, page 104 de votre livre. Autant être précis. Quel est ce lieu et que s'est-il passé ce jour-là ?
Le Checkerboard Lounge est un club où, malheureusement, je ne suis jamais allé, mais qui est la propriété de Buddy Guy. Buddy Guy, donc grand guitariste qui avait joué avec les Rolling Stones et Junior Wells, l'harmoniciste, lors de leur tournée européenne de 1970. Donc ils sont passés au Palais des Sports de Paris avec en première partie Buddy Guy et Junior Wells. Et en 1981, ils trouvent le temps, entre deux concerts dans le Midwest, de se pointer au Checkerboard Lounge. Alors, ça a été filmé, donc ce que j'en sais, c'est tiré du film DVD disponible maintenant, grâce à Eagle Vision, je crois.
Exactement.
Il se pointe, d'abord les deux guitaristes, ensuite le chanteur, un peu emmitouflé dans leurs vêtements, il ne doit pas faire très chaud dehors. Et sur scène, il y a ce monsieur d'un âge certain, chemise blanche, cravate, gilet... petite moustache un peu grisonnante, assis sur un tabouret, qui joue du blues électrique. Je crois que c'est Muddy Waters, né McKinley Morganfield, est le premier, en 1944, à avoir branché une guitare sur l'électricité. Donc c'est le père du blues de Chicago, du blues électrique. Donc il joue ça, évidemment, pépère, tranquille, il est à l'aise, il est chez lui. Et en même temps, c'est son dernier concert. Et puis, il y a ces types dans la salle, arrivés avec des très jolies filles, évidemment, et des bouteilles de Wild Turkey ou de quelque chose comme ça, parce que Keith Richards ne sépare jamais de son bourbon à l'époque. Puis il leur fait signe de monter sur scène, et l'un après l'autre, Mick en survêtement rouge, Keith en chemise blanche et pantalon noir, Ronnie ensuite, et plus tard, le pianiste original des Stones, Ian Stewart, qui se glisse derrière les claviers. Et donc, toute cette joyeuse assemblée fait ce qu'on appelle « taper le bœuf », en gros, parce que les Stones sont en pleine tournée, ils n'ont pas passé des heures à répéter avec le Muddy Waters Band. Au début, ils font « Baby, please don't go », je crois, pour commencer. C'est un peu hésitant, et puis ça se décoince. Et quand ils arrivent à Manish Boy, Muddy Waters, il n'est plus assis sur son tabouret comme le monsieur d'âge respectable qu'il est. Il est debout, il a les hanches qui remuent, ils échangent des regards avec Mick, ils échangent les couplets, ils sont à tu et à toi. Il y en a un qui dit « I'm a natural born lover », l'autre dit « Sure you are », etc. Ce sont des vieux potes, visiblement. Donc, oui, ils connaissent Muddy Waters depuis au moins 1964. Il leur a donné leur nom. Ils ont joué à une quantité considérable de chansons de Muddy Waters. Sur leur premier album, je crois que la deuxième chanson est « I just want to make love to you », Willie Dixon, Muddy Waters, dont il donne une version à eux très trépidante, très juvénile, très sexy, très arrogante. Mais voilà, quoi, quand on a un premier album dont la deuxième chanson est « I just want to make love to you », ça crée des liens avec l'interprète et l'auteur.
Quand on regarde les images du Checkerboard Lounge de Chicago en 1981, puisque cette séquence de votre ouvrage existe en DVD, on le rappelle, on remarque que Mick Jagger hésite à monter sur scène. Pourquoi, selon vous ? Est-ce que c'est de l'humilité ? Est-ce que c'est du respect ? Est-ce qu'il minaude ?
C'est un grand minaudeur. En même temps, l'impression que donne ce concert, c'est d'avoir été peu répété. Donc, oui, il faut un peu l'encourager. Et puis, ça crée du lien avec le public. Le type qui arrive sur scène en chantant « Jumping Jack Flash » ou « Start Me Up » soir après soir, c'est pour les stades. Là, la vedette, c'est quand même Muddy Waters. Surtout, c'est les chansons de Muddy qui les joue, lui, très bien. Et eux, les Stones, ils les connaissent. Mais bon, ce sont deux choses différentes, de connaître des chansons et puis de les jouer soir après soir, comme peut le faire Muddy Waters. Là, je ne sais pas, il y a certainement un mélange... Pas de timidité, Jagger timide, j'y crois pas trop, mais d'une forme d'humilité et puis peut-être d'un tout petit chouïa d'embarras.
Le résultat de cette respectueuse camaraderie, c'est cette version improvisée de Manish Boy par son auteur, Muddy Waters, en compagnie de Mick Jagger, Keith Richards, Ron Wood, Buddy Guy et Junior Wells, entre autres. Woo!
young boy at the age of 5. My mother's child's gonna be the greatest man alive. But now I'm a man way past 21. You gotta believe me, honey, I have lots of fun. I'm a man. I spell M A child. That's right.
The way I make love to a woman,
yeah.
You just can't resist.
I hear you.
I'm a man. I'm a full grown man.
I hear you, son.
I'm a man. I'm a natural born lover, man.
I can dig that. No.
Don't hurt me, don't hurt me, child.
Yeah.
Don't hurt me, child.
Right on.
Don't hurt me, don't.
Yeah.
Don't hurt me, child.
Thanks, son.
There you're doing.
Un moment d'anthologie que vous relatez brillamment dans votre ouvrage, Bruno Jufin. C'était Manish Boy, Muddy Waters et une moitié des Rolling Stones en 1981 à Chicago. Bruno Jufin, est-ce qu'il y a des concerts que vous narrez dans votre livre que vous regrettez de ne pas avoir vécu ?
Alors ben, évidemment, il y a tous les concerts antérieurs à 73. Si j'avais une machine à remonter dans le temps, j'irais au Marquee Club, j'irais au Crawdaddy de Richmond, bon voilà. C'est les deux premières périodes, la période blues et la période pop. On dit que c'est le plus grand groupe de rock'n'roll du monde. On devrait dire qu'ils auront chronologiquement le plus grand groupe de blues joué par des blancs. Pas le blues blanc qui est autre chose. L'un des deux plus grands groupes de pop avec les Beatles. Ils deviennent le plus grand groupe de rock'n'roll virtuose quand arrive Mick Taylor. Et depuis le départ de Mick Taylor en 1974, ils sont le plus grand groupe de rock'n'roll fêtard et bambocheur. Avec des hauts et des bas, quand on est fêtard et bambocheur, il y a des jours où on en a un petit coup dans le nez. Mais la dernière fois que je les ai vus, c'était Marseille en 2018. J'ai vraiment été estomaqué, quoi. Tellement c'était pur, dur, authentique. À côté de ça, il y a des concerts auxquels j'étais présent et que je n'ai pas raconté dans le livre, parce que ça serait un peu répétitif de raconter mes années 70 à loisir.
Personnellement, j'aurais aimé être à Cuba le 25 mars 2016. Pourquoi ce concert était-il un événement et un symbole fort ?
Cuba, pendant les années 60 et 70, il semblerait, alors encore une fois, que quelqu'un qui écoutait une chanson des Rolling Stones et qui était surpris, dénoncé par ses voisins, parce que la police politique était un peu partout, risquait d'écoper d'un séjour en camp de rééducation s'il avait de la chance, en prison s'il n'en avait pas. Tout ce qui était occidental était tabou, capitalisme, etc. Voilà. Quand les Stones jouent à Cuba, c'est que Cuba est en train de changer. Et les Stones jouent à Cuba peu après que Barack Obama ait rendu visite à La Havane. Barack Obama leur grille la politesse parce qu'ils devaient normalement jouer ce jour-là et puis bon, ils ont quand même cédé la place. Mais je crois que leur concert aura peut-être plus marqué l'imaginaire des citoyens et citoyennes de La Havane que l'arrivée de Barack Obama, parce que Cuba, je me suis laissé dire, je ne suis pas un spécialiste absolu des musiques du monde, que c'est un endroit où on s'y connaît en musique et en fête et en danse. Et que dans un pays où ils n'ont quasiment pas vendu d'album, puisque voilà, c'était interdit. La musique anglo-saxonne, il n'y avait pas de magasin où les gens pouvaient acheter ça. Ils partent là-bas un petit peu, je ne vais pas dire à l'aveuglette, mais ce n'est pas une affaire gagnée d'avance. Et il faut voir la réaction du peuple de Cuba face à ces gens qui chantent en anglais, du blues, Cuba, c'est pas exactement la même culture musicale, même si ça vient d'Afrique, bien entendu. C'est instantané. Il y a, je crois, pour les gens qui ont, dont le système nerveux est branché sur une certaine fréquence, quelque chose qui transcende la barrière culturelle et linguistique. J'aurais aimé y être, oui, évidemment, parce que quand les Cubains font la fête, c'est communicatif.
Et quand ils sont 500 000
Quand ils sont 500 000, encore plus.
Je serais bien allé au Beacon Theater, également de New York, le 1er novembre 2006, notamment pour cette rencontre au sommet entre la légende du blues, Buddy Guy, et son disciple, Keith Richards, qui regarde le maître avec admiration et pour une fois sans fanfaronne. Champagne and Reefer de Muddy Waters par Buddy Guy et les Rolling Stones devant les caméras de Martin Scorsese, extrait du DVD Shine a Light que vous retrouverez en bonus dans le livre The Rolling Stones on Stage, paru chez GM Éditions et signé Bruno Jufin, que je remercie d'être passé nous voir d'ailleurs.
C'est un grand plaisir pour moi.
Qu'est-ce que vous avez demandé au Père Noël pour cette année ?
Cette année, une machine à remonter dans le temps ?
Ça serait bien. Merci à vous et tenez-nous informés de vos prochains écrits.
Avec plaisir et longue vie aux musiques noires.
Exactement. L'émission du jour était illuminée par la réalisation soignée de Nathalie Laporte. Passez un très bon Noël. On se retrouve dans 8 jours avec un florilège des meilleures épopées de l'année 2019. Et d'ici là, bon shopping, bonne semaine et soyez généreux. Dans quelques instants, le journal.
La falade, to the station.
Nice. I missed the last. I missed, didn't get the right. Archipelago. You know what I mean?
Arthur?
And I hate that when I don't get that in.
Musique du monde.